Etur Jesus Christus.
Un sommet international sur les droits de l'enfant s'est ouvert ce matin au Vatican, voulu par le pape François. Il rassemble des dizaines de dirigeants et responsables d'institutions internationales. Ouvrant les débats, le souverain pontife a invité les participants à ne pas s'accoutumer aux injustices et fléaux qui blessent les enfants. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Après le Canada, le Mexique prépare à son tour sa riposte aux droits de douane annoncés par Donald Trump. Nous retrouverons notre correspondant à Mexico. À la une de ce journal également, les discussions qui se poursuivent en Turquie entre les autorités et les Kurdes du PKK. Ces derniers sont-ils prêts à abandonner la lutte armée? Et puis nous irons dans le sud Kivu. Les rebelles du M23 progressent après avoir pris Goma il y a quelques jours. C'est la ville de Bukavu qui pourrait tomber ces prochaines heures. L'église catholique locale, elle, appelle à la paix et à la réconciliation.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Le 25 mai dernier, le pape accueillait 50 000 enfants du monde entier dans le stade olympique de Rome pour la toute première journée mondiale des enfants. 8 mois plus tard, le souverain pontife convoque plusieurs dirigeants politiques et économistes afin de placer les droits et les rêves des plus jeunes au centre des préoccupations mondiales. Ce sommet sur les droits des enfants s'est donc ouvert ce matin dans la salle Clémentine du palais apostolique, en présence notamment de la reine Rania de Jordanie ou de l'ancien vice-président américain Al Gore. Sont réunis pour une journée d'échange qui se concentre sur 8 thématiques allant du droit à l'éducation des enfants à celui de vivre loin de tout type de violence. Dans son discours d'ouverture, le Saint-Père a exhorté les participants à échanger afin d'ouvrir des nouvelles voies pour les sauver et les protéger et à ne jamais s'accoutumer à l'inacceptable. Le compte-rendu d'Alexandra Siergo.
Le pape a en premier lieu rappelé les fléaux qui frappent la vie de millions d'enfants, tels que la guerre et la pauvreté. Mais il précise que même là où les gens ne souffrent pas de la violence ou de la faim, il y a des périphéries difficiles où les petits sont souvent victimes de fragilités et de problèmes qu'il ne faut pas sous-estimer. À commencer par l'anxiété et la dépression, qui touchent plus que par le passé les jeunes et les poussent parfois à emprunter les voies de l'agressivité ou de l'automutilation. De plus en plus, ceux qui ont la vie devant eux ne parviennent pas à l'envisager avec une attitude confiante et positive. Et à l'évêque de Rome de souligner ce paradoxe contemporain, ce sont précisément les jeunes qui sont des signes d'espérance dans la société qui peinent à reconnaître l'espérance en eux-mêmes. Une réalité inquiétante qui s'explique selon François par le fait que lorsque l'avenir est incertain et imperméable aux rêves, il est inévitable que le présent soit vécu dans la mélancolie et l'ennui. Le pape a exhorté les participants au sommet à ne jamais s'accoutumer à l'inacceptable, aux enfants qui meurent sous les bombes, aux jeunes embrigadés malgré eux par les bandes criminelles ou encore à ceux qui meurent en mer ou dans le désert sur les nombreux itinéraires de voyages désespérés d'espérance.
Alexandra Siergan, et nous reviendrons sur les suites de ce sommet dans notre édition de 18h. Pour tout savoir sur cet événement, le premier du genre, une seule adresse, vaticannews.va. Donald Trump doit discuter ce lundi avec ses voisins canadiens et mexicains après avoir décidé d'imposer des droits de douane à 25% sur les produits importés de ces deux pays. Une décision qui a provoqué la consternation à Ottawa comme à Mexico et des tensions prévisibles. Le gouvernement mexicain s'attelle à trouver une riposte. Les précisions de notre correspondant à Mexico, Diego Calmar.
C'est un peu la panique au Mexique maintenant que Donald Trump a confirmé ses menaces d'augmenter les droits de douane à hauteur de 25% sur les importations mexicaines. Hier, la présidente Claudia Sheinbaum a enfin pris la parole et tout comme le Canada, Mexico promet des mesures fiscales. Jouant sur la fibre patriotique à destination des Mexicains, elle a également défendu son gouvernement que Donald Trump accuse de liens directs avec les cartels. Plus pragmatique, Claudia Sheinbaum a prévu ce lundi de s'entretenir avec son homologue américain afin de négocier cette guerre commerciale qui s'annonce. Les mesures tarifaires que prendra le Mexique en réponse à Donald Trump interviendront donc ce lundi. Il faut rappeler que les deux pays sont interdépendants et que plus de 80% des exportations du Mexique se font en direction du voisin du Nord. Une hausse des tarifs douaniers apparaît donc comme un risque pour l'économie mexicaine. À Mexico, Diego Calmar, pour Radio Vatican.
Le canal de Panama lui restera sous souveraineté panaméenne. C'est l'assurance donnée hier par le président du pays d'Amérique centrale, alors que le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio y a effectué sa première visite à l'étranger. Donald Trump n'avait pas fait mystère de sa volonté de reprendre le contrôle du canal de Panama qui relie océan Atlantique et Pacifique. Autre terre de convoitise pour le président américain, le Groenland. Avant de s'installer à la Maison-Blanche, le milliardaire républicain avait partagé sa volonté d'annexer le territoire qui est sous souveraineté du Danemark. Hier, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui a estimé que Copenhague n'était pas un bon allié des États-Unis. Propos contre lesquels s'est inscrit en faux la chef du gouvernement danois ce matin. L'autorité palestinienne accuse Israël de nettoyage ethnique en Cisjordanie alors que les troupes de l'armée israélienne poursuivent leur opération qualifiée d'antiterroriste dans la ville de Jénine. 70 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année en Cisjordanie, dont plus de la moitié à Jénine, relève tout à l'heure le ministre palestinien de la Santé. Concernant le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, sa deuxième phase sera au cœur des entretiens de Benjamin Netanyahou avec Donald Trump. Le premier ministre israélien, le premier dirigeant étranger à être reçu par le nouveau président américain, ce sera demain. Ce lundi, il doit rencontrer l'émissaire américain pour le Moyen-Orient. La Turquie est-elle proche de tourner la page de 4 décennies de guerre contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan? Le président Recep Tayyip Erdogan, mais surtout son allié ultranationaliste, ont initié il y a 4 mois un processus de négociation dont le but est d'amener le PKK à désarmer et à s'autodissoudre. Un processus qui renferme toutefois de nombreuses inconnues. Il est donc accueilli avec prudence chez les Kurdes de Turquie. À Ankara, Anne Andlauer.
Depuis des mois, les autorités turques discutent avec le chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, Abdullah Öcalan, et le laissent échanger avec des cadres du parti pro-kurde légal, le DEM. Objectif déclaré, le désarmement du PKK, la fin de 40 ans de guerre avec les combattants kurdes en Turquie, mais aussi dans le nord de l'Irak et de la Syrie. L'échec de tentatives passées, le fait que le pouvoir justifie le processus actuel par des enjeux sécuritaires et non par un effort de démocratisation, les Kurdes de Turquie sont sceptiques, constate Roj Girasun, directeur de l'Institut de recherche et de sondage Ravest, spécialisé dans ce sujet.
Ce qui domine, c'est la prudence et l'inquiétude. Que se passera-t-il si ce processus échoue? Un processus est-il vraiment en cours? Il y a un manque de confiance très net.
Le scepticisme n'empêche pas l'espoir et le soutien aux efforts de paix, notamment chez les jeunes Kurdes. Roj Girasun.
Toutes nos enquêtes le montrent par rapport aux générations précédentes. Les jeunes Kurdes d'aujourd'hui se montrent beaucoup plus prêts au compromis et éloignés de la violence, d'une solution armée. C'est un effet de l'urbanisation croissante de la population kurde, de son accès croissant aux classes moyennes, de son intégration croissante à la société en Turquie.
Beaucoup s'attendent à ce qu'Abdullah Öcalan appelle le PKK à abandonner les armes le 15 février, 26e anniversaire de son arrestation. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Et la Turquie qui accueillera demain Ahmad al-Shara, le président intérimaire syrien. Celui-ci a effectué hier son premier déplacement à l'étranger en Arabie Saoudite. L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la RDC. Déclaration ce matin du président sud-africain Cyril Ramaphosa, alors que 14 soldats de son pays ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo dans les combats contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Après la prise de Goma, c'est désormais vers la ville de Bukavu qu'il se dirige. L'église locale suit la situation avec préoccupation, mais aussi avec l'espoir d'une réconciliation. L'abbé Justin Nkunzi dirige la commission justice et paix à l'archidiocèse de Bukavu.
Nous sommes frères et les gens qui habitent au nord Kivu comme au sud Kivu ont des relations familiales. Donc, l'église se mobilise. Mais comme je vous ai dit là-bas, nous travaillons sous stress. Et nous ne voulons pas toujours travailler, toujours après conséquence. Nous souhaiterions que l'Église ne vienne pas toujours comme un sapeur-pompier, mais que nous puissions être là comme une Église qui accompagne. Une Église qui va vers les périphéries, mais pas une Église qui va faire le décompte des morts. Et j'espère que les bains du sang et les traumatismes peuvent être encore écartés. Vous comprenez que j'ai parlé des émotions parce que je suis à Bukavu, et quand tu es à Bukavu ici, c'est vraiment l'émotion, c'est la peur au ventre, mais c'est aussi l'espoir. Personne ne souhaiterait vivre une angoisse permanente. Je vous assure que nous sommes débordés, mais nous sommes pleins d'espoir.
L'abbé Justin Nkunzi, directeur de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, il répondait aux questions de Marie Duhamel. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir à 18h. Vous serez accompagné par Delphine Allaire. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.